Chers bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler de la lettre de 1 Jean. Parlons de l'auteur. Jean, fils de Zébédée, est l'auteur de cette première épître. Nous pouvons le voir dans Marc 1, 19 à 20. Il est aussi l'auteur de l'évangile de Jean et du livre d'Apocalypse. Vous pouvez voir cela dans les introductions aux deux livres. L'apôtre Jean était un pêcheur de poissons, l'un des apôtres qui faisait partie du cercle intime de Jésus avec Jacques et Pierre. Il était le disciple que Jésus aimait, selon Jean 13, 23. Il est possible qu'il était le premier cousin de Jésus. Salomé, sa mère, était une sœur de Marie, mère de Jésus. Contrairement à la plupart des lettres du Nouveau Testament, 1 Jean ne dit pas qui en est l'auteur. La première identification de l'apôtre Jean comme l'auteur de cette lettre vient des pères de l'Église, Irénée en 140 et 203 après Jésus-Christ, Clément d'Alexandrie et puis Tertullien et Origène plutôt. Aucun autre auteur n'a jamais été proposé pour cette lettre. Le contenu de la lettre confirme que l'apôtre Jean en est l'auteur. Le style de l'évangile de Jean est similaire à celle de la première lettre. Les deux œuvres sont écrites dans un grec simple et utilisent les mêmes contrastes, lumière et obscurité, vie et mort, vérité et mensonge, amour et haine, etc. La mention des témoins oculaires dans 1 à 4 confirme en effet que Jean était un disciple du Christ dès les premières heures de son ministère. Troisièmement, le ton autoritaire qui imprègne la lettre, visible dans ses commandements, ses affirmations fermes et son identification des hérésies menaçant ses lecteurs, confirme son rôle d'apôtre. Quatrièmement, les suggestions du texte liées à l'âge avancé de son auteur adressant à ses lecteurs qu'il considère comme ses enfants concordent avec la tradition de l'Église primitive concernant l'âge de Jean quand il écrivait ses lettres. Cinquièmement, la description des hérétiques comme des antéchrists, des menteurs et des enfants du diable est compatible avec la description des gens par Jésus comme le fils de tonnerre. Et puis, les indications d'une relation étroite de l'auteur avec le Seigneur confirment que les affirmations de ces derniers, comme le disciple que Jésus aimait et celui qui s'était allongé à côté de lui pendant la dernière célébration de la Pâque. Parlons maintenant de la date de la lettre. La date de la lettre est difficile à établir, mais les facteurs suivants aident à situer sa rédaction entre les années 85 et 95 après Jésus-Christ, quelque temps après la rédaction de l'Évangile de Jean. La mention de la lettre par les premiers auteurs chrétiens Irénée et Clément d'Alexandrie, la mention de la forme précoce de la gnose dénoncée dans la lettre, les indications de l'âge avancé de Jean suggèrent la fin du 1er siècle. Parlons maintenant des destinataires. 1 Jean 2, 12 à 14, 19, 3, 1, 5, 13 montre clairement que cette lettre a été adressée aux croyants. Mais la lettre elle-même ne précise pas qui ces croyants étaient ni où ils vivaient. Le fait que Jean ne mentionne pas son nom indique que la lettre était un circulaire envoyé aux chrétiens de plusieurs églises ou encore de plusieurs villes. Plusieurs écrivains de l'Antiquité chrétienne pensent que Jean avait écrit la lettre à partir de la ville d'Éphèse pendant les dernières années de sa vie, vers les années entre 70 et 100 après Jésus-Christ. Il est possible que la lettre de Jean ait été envoyée aux églises de la province d'Asie. Le gnosticisme. Le gnosticisme était une des hérésies les plus dangereuses des deux premiers siècles de l'Église. La doctrine centrale de la gnose enseignait que l'esprit est bon mais la matière était mauvaise. Ce dualisme antibiblique comportait les cinq erreurs suivantes. D'abord, le corps humain qui est matière était considéré comme mauvais. Le corps est le contraire de Dieu qui est esprit, c'est-à-dire qui est bon. Le salut consiste en l'évasion du corps réalisé non par la foi en Christ mais par la gnose, par une connaissance spéciale. La gnose nie la vraie humanité du Christ de deux façons. D'abord, pour certains gnostiques, le corps physique du Christ n'était pas réel, il n'était qu'une apparence, docétisme du grec dokeo, qui signifie paraître. Et deuxièmement, pour d'autres, le Christ divin éternel s'était uni à l'homme Jésus au baptême et l'avait abandonné avant sa mort. Car c'est ce point de vue qui a servi d'arrière-plan à une grande partie de 1 Jean. Puisque le corps est considéré comme mauvais, Les gnostiques pratiquaient un ascétisme rigoureux sur leur corps. Cette forme d'ascétisme gnostique constitue l'arrière-plan d'une partie de la lettre de Paul aux Colossiens, voir Colossiens 2, 21 et 23. Paradoxalement, ce dualisme aussi conduit à la licence. Plusieurs gnostiques pensaient que comme la matière, le corps physique, était la cause de la séparation entre l'humanité et Dieu, alors il n'y avait aucune conséquence pour ceux qui désobéissaient à la loi de Dieu, 1 Jean 3, 4. Le gnosticisme mentionné dans le Nouveau Testament constituait encore une forme précoce de l'hérésie et ne devrait pas être confondu avec le gnosticisme complexe qui a dominé le 2e et le 3e siècle. Parlons de l'occasion et du but de la lettre. Les lecteurs de Jean étaient confrontés à une forme précoce de l'enseignement gnostique dans sa variété libertine appelée le sérantianisme. Par conséquent, Jean avait écrit cette lettre en ayant deux objectifs fondamentaux à l'esprit. D'abord, exposer les faux enseignants, donner aux croyants l'assurance du salut, conformément à son intention de lutter contre les enseignements gnostiques. Jean était étonné par leur absence totale de moralité. Et en témoignant de l'incarnation, Jean cherchait à encourager la foi de ses lecteurs dans le Christ incarné. La joie de l'apôtre serait grande si ses lecteurs suivaient ses recours.